Bonjour à tous, je suis Raphaël Mambou, que Jésus vous bénisse. Qui que vous soyez, où que vous soyez, le nom de cette émission est Venez à Jésus. C'est une grâce, c'est un honneur de pouvoir vous retrouver encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu pour partager quelques versets bibliques sur le bon berger. C'est notre cinquième émission et je bénis grandement le Seigneur pour cela. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais vous invitez à prier avec moi afin de dédier le reste des 30 minutes entre les mains du Seigneur. Pourquoi nous devons prier? La prière est une conversation entre l'homme et son Créateur, entre l'homme et Dieu. Alors, je pense que quand même, ça serait une bonne chose de lui dire merci, de lui remettre ces 30 minutes entre ses saintes mains qui nous parlent, qui nous dirigent, qui nous fassent du bien. Prions. Père éternel, merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ton pardon, merci pour ta vie, merci pour ton salut qui se trouve en Jésus-Christ. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes aujourd'hui d'entendre encore ta parole. Combien de milliards d'hommes et de femmes auraient voulu entendre ta parole, mais ils n'ont pas eu l'opportunité, ou ils l'ont entendue, mais ils l'ont rejetée. Permets, Seigneur, que ce que tu vas nous dire aujourd'hui nous fasse du bien. Ce que tu vas dire aujourd'hui nous ouvre les yeux du cœur, nous fasse comprendre quelle est ta volonté dans notre vie, qui est le bon berger et qu'est-ce que le bon berger est capable de faire pour nous. Nous avons ainsi prié, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Le bon berger. Lisons le psaume 23, versets 1 à 3. Le psaume 23, très célèbre psaume 23, 1 à 3. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. L'Éternel est mon berger, ce berger restaure mon âme. Dans Jean 10, verset 11, Jésus dira clairement, je suis le bon berger. Jésus-Christ est l'Éternel, le berger qui prend soin de ses brebis. Nous avons dit dans les émissions précédentes qu'un bon berger, qu'un berger est celui qui prend soin de ses brebis. Et que les brebis de l'Éternel, les brebis du Seigneur Jésus-Christ ne manquent de rien. On peut passer par des difficultés, on peut passer par des obstacles, par des épreuves, par le feu, par la mer, par les tempêtes, par les nuits obscures, par les attaques de l'ennemi. Mais Dieu nous rassure d'une chose, il ne nous abandonnera jamais. Il nous assure d'une autre chose, nous ne manquerons de rien. C'est vraiment merveilleux. Et dans sa, j'allais dire, dans son ministère de berger, Jésus-Christ restaure les âmes. C'est quoi une âme? Ben, l'âme, c'est très simple, c'est le siège des émotions, de l'intelligence, des pensées. L'homme est spirituel. Il vit dans un corps et il possède une âme. Personnellement, il y a deux écoles, pardon, je m'excuse, il y a deux écoles qui définissent l'homme ainsi de suite. La première école dit que l'homme est corps, âme et esprit. La deuxième école, le deuxième mouvement, la deuxième pensée dit que l'homme est esprit, il vit dans un corps et il possède une âme. Personnellement, moi, je soutiens le deuxième courant, c'est-à-dire que l'homme est esprit, il a une âme et il vit dans un corps. Et le berger, Jésus-Christ, a comme ministère, en dehors du fait qu'il nous conduit, qu'il est notre berger, qu'il est notre sauveur, il est celui aussi qui restaure notre âme. L'âme, c'est le siège de l'intelligence, des pensées, des émotions. Restaurer veut dire quoi? Restaurer veut dire reconstruire ce qui a été détruit. Remettre à neuf quelque chose qui a été usé, quelque chose qui a été utilisé, jusqu'à être vidé. C'est sa restauration. Je prie Dieu qu'un jour, Dieu nous donne l'opportunité de faire une petite étude sur la restauration. Restaurer, reconstruire, rebâtir, remettre à neuf l'âme des brebis de Dieu. Ça veut dire qu'il faut aussi casser, qu'il faut aussi détruire. C'est un peu comme vous achetez une maison. C'est, vous achetez une maison, vous la regardez, vous voyez le plan, vous dites, c'est la maison que je veux modifier. Je veux la restaurer. Je vais rebâtir cette maison. En d'autres termes, vous allez enlever certaines choses qui ne vous plaisent plus, qui ne vous plaisent pas, pardon, dans cette maison-là. Restaurer un meuble, c'est un meuble qui vous plaisait, mais qui a été détruit, rongé peut-être par des termites, je ne sais pas, détruit par les intempéries. Vous voulez restaurer. Et dans la restauration, il arrive qu'on enlève certaines choses qui ne sont plus utilisables. Alors, si l'Éternel, notre Dieu, qui est Jésus-Christ, veut restaurer notre âme, c'est que notre âme, avant la restauration, a quelque chose qui n'est pas de Dieu. Matthieu 15, verset 19, nous dit ceci. Matthieu 15, verset 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Verset 20. Voici les choses qui souillent l'homme. Quelles sont ces choses? Ces choses qui viennent de l'âme. Le meurtre, les mauvaises pensées, l'adultère, toutes ces mauvaises pensées, toutes ces mauvaises conceptions. Avant de pécher, avant que le péché devienne physique, il est d'abord, spirituel, il est d'abord invisible. Il est dans l'âme de la personne. Lorsqu'on veut tuer quelqu'un, lorsqu'on veut commettre un meurtre, on médite tout un scénario. Lorsqu'on veut voler, on médite tout un scénario. Regardez ces films à la télévision sur les braquages de banque. On ne se lève pas le matin comme ça, là, et puis on entre dans une banque et on prend de l'argent et puis on sort. Non. Il y a tout un scénario qui est conçu. Et c'est la même chose dans l'adultère. On se réveille pas dans les secondes d'après, on est adultère. Non. Il y a tout un scénario, tout un projet, toute une étude qui est faite. On voit la personne, on la désire, on drague la personne, on séduit la personne, et on va faire des choses, on va commencer à projeter, à faire des choses que son conjoint ne connaît pas. Donc, toutes ces choses viennent du cœur. Alors, dans le cadre de la restauration, Jésus-Christ doit enlever toutes ces choses-là. Voilà pourquoi je disais dans les émissions précédentes, un berger est quelqu'un qui a une influence sur ses brebis. Si Jésus-Christ n'a pas une influence sur vous, c'est que vous n'êtes pas du troupeau de Jésus-Christ. Vous n'êtes pas du troupeau de Jésus-Christ. En préparant cette émission, je relisais un texte, je lisais quelques textes sur les bergers à l'époque d'Israël. Il y a une très belle histoire qui m'a touché. Il paraîtrait qu'on pouvait mettre dans un même enclos plusieurs troupeaux de plusieurs bergers. Alors, lorsque le berger du troupeau A entrait, chantait, sifflait ou parlait ou appelait ses brebis, seules ses brebis venaient venaient à ce berger-là. Donc, en fait, les brebis reconnaissent la voix de leur maître. En d'autres termes, ces brebis ont été influencées par leur berger. Donc, si vous n'êtes pas influencé dans votre vie de tous les jours par Jésus-Christ, c'est que vous n'êtes pas de sa bergerie. Vous pouvez être membre d'une église dite chrétienne. Vous pouvez être membre d'une église catholique, d'une communauté catholique, d'une communauté protestante, d'une communauté kimbanguiste, témoin de Jéhovah, foi Bahaï, mormon et je ne sais quoi. Tous ceux qui se prétendent être des serviteurs de Dieu. Mais l'influence qu'a Jésus-Christ sur votre vie ou l'influence de la religion sur votre vie détermine quel type de brebis vous êtes et à quel type de troupeau. Qu'on ne se trompe pas. Jésus dira dans Jean 10, relisons-le, Jean 10, verset 11, si je me souviens bien. Jean 10, verset 11, oui. Non, non, Jean 10, verset 14. Je connais mes brebis et elles me connaissent. De ce type de verset, il y en a quand même beaucoup dans la Bible. Dieu connaît ses brebis. Vous ne pouvez pas tromper Dieu. On ne peut pas tromper Dieu. Ce n'est pas parce qu'on a un grand titre, des grands titres, des grands diplômes en théologie. On est 6 fois docteur en théologie libérale ou pentecôtiste ou je ne sais quoi de renouveau. C'est une très bonne chose. Mais le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne l'appartiennent pas. En d'autres termes, le Seigneur connaît ceux qui le suivent et ceux qui ne le suivent pas. Jean 10, verset 3. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Les brebis de Christ ne se laissent pas distraire par d'autres bergers, par d'autres bergers. Ne nous laissons pas distraire. Mais comment? Premièrement, laissons Christ restaurer notre intelligence. Laissons Christ restaurer nos émotions. Laissons Christ restaurer notre façon de penser. Le Seigneur m'a fait comprendre il y a quelques années en arrière que gagner une âme à Christ est quelque chose de facile. Gagner une personne à Christ est quelque chose de très simple. C'est le Saint-Esprit qui le fait d'abord. Mais discipliner quelqu'un en Christ, en faire un disciple en Christ, est quelque chose de plus difficile que de gagner des gens à Christ. Pourquoi? Parce qu'il faut casser leur mentalité du monde. Ils viennent avec leur intelligence, ils viennent avec leur façon de penser, ils viennent avec leur culture, ils viennent avec leur modernité, j'allais même dire. Tout n'est pas forcément mauvais. Et maintenant, il faut commencer à analyser toutes ces choses-là en fonction de la parole de Dieu. Romains 12, versets 1 à 2. Romains 12, 1 à 2. Paul dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Notez, mes frères et sœurs, que Paul s'adresse à des chrétiens de l'époque de Rome. Aujourd'hui, c'est la même chose. Dieu nous parle au travers de ce verset. Il ne parle pas à des inconvertis. Il ne parle pas à des hommes et des femmes qui ne suivent pas Jésus-Christ. Il ne parle pas à des hommes et des femmes qui ne s'intéressent pas à Jésus-Christ. Mais il parle à ceux et celles qui prétendent appartenir à Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il leur dit? Premièrement, offrez vos corps. Mais on est né de nouveau. On appartient déjà à Jésus-Christ. Oui, c'est vrai. Mais offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Deuxièmement, changez votre façon de penser. Ne réfléchissez pas comme le monde réfléchit maintenant. Ne voyez pas les choses comme le monde le voit. N'acceptez pas les philosophies, les pensées des choses du monde. Des philosophies du monde, pardon. C'est un peu comme j'ai vu il y a quelque temps un film, le dialogue entre deux hommes, la conversation entre deux hommes. Le premier parlera du bien et du mal. Le second répondra, le bien et le mal sont des thèmes qui sont relatifs pour moi. Parce que ce que moi je peux appeler mal, toi tu vas appeler bien. Ce que moi je vais appeler bien, toi tu vas appeler mal. Et c'est comme ça que le monde réfléchit aujourd'hui. Il y a des choses aujourd'hui que le monde considère comme étant bien, que le monde considérait hier comme étant mal. Mais Jésus-Christ, la Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change pas. Dieu ne varie pas. Ce que Dieu considérait comme mal à l'époque de Jésus, il le considère aujourd'hui comme mal à notre époque. Attention. Appelons péché ce que Dieu appelle péché. Appelons bien ce que Dieu appelle bien. En d'autres termes, mettons-nous d'aplomb ou alignons nos pensées à la parole de Dieu. Voilà pourquoi je dis encore, la Bible n'est pas le livre pour les pasteurs. La Bible n'est pas le livre pour les prédicateurs. La Bible est le livre pour tous ceux et toutes celles qui appartiennent au troupeau de Jésus-Christ. Nous devons connaître la Bible de Genèse à Apocalypse, de Genèse 1:1 à Apocalypse 22:21. La Bible est le livre le plus vendu, le plus traduit, mais le moins lu. Toutes les sociétés occidentales, dans chaque maison, il y a minimum un Nouveau Testament. Mais c'est le livre qui n'est pas lu. Pourquoi? Parce que le diable est arrivé à nous faire croire que ce sont des vieilleries, que ce sont des vieilles histoires. Ou que quand il faut le lire seulement le dimanche matin. Non! Ne vous conformez pas au monde présent, d'après d'autres versions. Romains 12, verset 2. Mais soyez transformés, soyez métamorphosés, soyez changés. Faites volte-face dans votre façon de penser. Renouvelez vos pensées. En d'autres termes, il y avait d'autres pensées avant. Il y avait une autre façon de penser avant notre conversion. Mais maintenant que nous appartenons au bon berger, maintenant que Jésus-Christ est le berger de notre vie, changeons nos façons de penser. Ne réfléchissons plus comme ceux du monde. Pour avoir de l'argent, il faut absolument tuer, mentir, escroquer, voler l'autre. Il faut être infidèle. Il y a plein de techniques que le monde utilise pour avoir de l'argent, bien ou pas bien. Mais lorsque on appartient à Jésus-Christ, on change sa façon de penser. On gagne de l'argent comme Christ souhaiterait qu'on gagne de l'argent. On parle comme Christ voudrait qu'on parle. On regarde des choses que Christ voudrait qu'on regarde parce que ce que nous entendons, ce que nous voyons, influence notre pensée. La pensée influence les habitudes. La pensée influence notre manière de parler, notre manière de nous comporter. La pensée influence notre façon de nous habiller. Ah, on voit telle personne. Ah, mais elle était vraiment très bien habillée. On médite, on réfléchit sur ça. Et finalement, on voudrait aussi s'habiller comme ça. Non, réfléchissons comme Dieu voudrait que nous réfléchissions. Prenons la Bible, méditons la Bible. Réfléchissons sur la Bible. Proverbe 15, c'est sur les pensées. Proverbe 15, verset 26, Dieu dit ceci. Proverbe 15, verset 26. J'y suis. Proverbe 15, verset 26. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel, mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. Les mauvaises pensées sont des horreurs à l'Éternel, mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. Ce que nous pensons qui ne cadre pas avec la Bible, ce que nous pensons qui ne cadre pas avec la pensée de Jésus-Christ, en fait, nous sommes en train de pécher. Nous sommes en train de nous révolter contre Dieu. Les mauvaises pensées, les inquiétudes, les pensées impudiques, les pensées adultères, les pensées les méditations sur la pornographie et des fois même les lectures que nous faisons. Attention, nous ne devons pas lire n'importe quoi. Parce que si ça influence nos pensées, et des fois même la musique, des fois je dois même faire un grand effort lorsque je passe à un endroit et que j'entends une musique qui n'est pas chrétienne et que je capte ça, des fois pour que j'oublie cette musique-là, je me mets à chanter des cantiques à l'intérieur de moi-même. Je me mets à chanter des cantiques parce que si je médite sur ces paroles, sur les paroles de ces chansons qui ne sont pas dites chrétiennes, il m'est arrivé de me surprendre en pleine nuit en train de penser sur ces chansons. Attention! Attention! Les mauvaises pensées sont en horreur à l'Éternel. Mais les paroles agréables, comment est-ce que des paroles viennent? Les paroles sont d'abord le fruit de ce que nous pensons, de ce que nous sommes en train de méditer à l'intérieur. Donc, changeons notre façon de penser et nous changerons notre manière de parler. Et le seul qui puisse nous aider à le faire, c'est l'Éternel Dieu qui est le bon berger, qui est Jésus-Christ, mon frère, ma sœur. Jésus-Christ veut restaurer. Rappelez-vous, restaurer, c'est reconstruire, rebâtir, refaire, remettre à neuf quelque chose qui était détruit. Lorsque vous achetez une maison, vous faites des réfections, vous réhabilitez cette maison. Lorsque vous achetez un chantier, vous le réhabilitez. Vous ne continuez pas à vivre dans ce chantier comme si tout était terminé. Non, vous changez. Même lorsque quelqu'un acquiert une nouvelle entreprise, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il y aura une sorte d'induction, une sorte d'explication de la vision. Voilà, on va expliquer la vision. Lorsqu'on entre dans une entreprise, on vous explique d'abord la vision de l'entreprise. Pourquoi? Pour que vous puissiez rester aligné par rapport à cette vision. C'est la même chose avec la marche chrétienne. Et c'est comme ça qu'on grandit spirituellement. Une fois que vous donnez votre vie à Jésus-Christ, une fois que Jésus-Christ est votre berger, entrez dans sa vision. Pour connaître la vision du Seigneur, il faut se laisser restaurer l'âme. Il faut se laisser restaurer l'âme. Observez ceux et celles qui ne veulent pas de la Bible dans leur vie, quoi qu'ils ont donné leur vie à Jésus-Christ, sont les plus difficiles à, je ne vais pas dire à convaincre, sont les plus difficiles à relever. Parce qu'ils restent toujours d'aplomb, ils restent toujours attachés à leur façon de penser avant la conversion. Par exemple, on trouve que c'est normal. Lorsque vous voulez vous marier, on trouve que c'est normal. Ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, mais qui ne veulent pas renouveler leur pensée, ils trouvent que c'est normal lorsqu'ils veulent marier leur fille ou bien lorsqu'ils veulent se marier, qu'on recourt à la tradition. Des dots exagérées, on vous demande 2 000 $, on vous demande une chèvre, on vous demande des objets que eux-mêmes disent c'est symbolique. Mais pourtant, ils sont en train de perpétuer des traditions qui n'ont rien à voir avec Jésus-Christ. Parce qu'ils réfléchissent encore comme dans le monde. D'autres, ils viennent à Jésus-Christ, ils vous disent c'est bien tout ça, c'est bon, mais dans la culture de mes parents, avoir une deuxième femme est quelque chose d'honorable. Avoir des enfants en dehors de mon mariage est quelque chose qui prouve que je suis riche. D'autres même, ils n'ont que des filles, ils se disent non, les filles dans la Bible, ça n'a aucune signification. Alors que pour Jésus-Christ, il n'y a aucune différence entre un homme et une femme. On recourt toujours à des traditions. Non. Laissons Christ restaurer notre pensée. Laissons Christ restaurer notre intelligence. Et si nous ne le faisons pas, notre marche chrétienne sera de plus en plus difficile. Nous n'allons pas entrer dans la pensée de Dieu. Parce que pour que nous entrions dans la pensée de Dieu, il faut que Dieu nous restaure. Il faut que Dieu nous change. Les mauvaises pensées sont en horreur à l'Éternel. Les paroles agréables sont pures à ses yeux. Revenons dans Romains 12, verset 1, verset 2. Romains 12, verset 2. J'aimerais qu'on rejette encore un petit coup d'œil. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Vous voyez? Sa volonté bonne, agréable et parfaite. L'homme peut distinguer ces trois types de volonté de Dieu à partir de la parole de Dieu, à partir du fait qu'il se laisse changer, modeler ses pensées. Arrêtons de réfléchir comme nous étions en train de réfléchir dans le monde. Arrêtons. Changeons notre façon de penser. C'est la seule manière que nous avons pour distinguer ce qui est bon, agréable et parfait aux yeux de Dieu. Ça me rappelle un peu l'histoire de cet évangéliste dont je tais le nom. Il raconte qu'il n'a jamais entendu une voix venir lui dire d'aller évangéliser. Il n'a jamais entendu, il n'a jamais vu une vision du Seigneur venir lui dire d'aller évangéliser. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En lisant la Bible, il a découvert son appel. Dieu lui disait au travers des Écritures, va dans le monde entier et prêche l'évangile. Et il a fait ça. Il n'était pas, on ne le considérait pas comme un évangéliste, mais il voulait simplement parler de l'amour de Christ dans le monde. Et on lui a donné le titre d'évangéliste, la fonction d'évangéliste, si je puis dire. Pourquoi? Parce qu'il a fait la volonté de Dieu. Il s'est laissé transformer par la parole de Dieu. Mon frère, ma sœur, Dieu vous aime. De quel type de bergerie êtes-vous? Qui a une influence sur votre vie? Est-ce que c'est Jésus-Christ ou c'est quelque chose qui n'est pas Jésus-Christ? Rappelez-vous, nous avons dit, il existe des bergers qui s'appellent musique, film, modernité, argent, sexe, idolâtrie, religion, et il existe un berger qui s'appelle Jésus. Si Jésus n'est pas votre berger, Jésus veut vous donner l'opportunité aujourd'hui d'entrer dans sa bergerie. Et c'est très simple. Baissons la tête dans la prière et répétez ces simples mots après. Dites, Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ, je viens devant toi. J'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. J'accepte Jésus-Christ comme mon unique berger. Je prends l'engagement aujourd'hui et jusqu'à la fin de ma vie à suivre tous les jours et dans tous les domaines de ma vie Jésus-Christ. Je demande pardon pour mes péchés. Et j'invoque le sang de Jésus-Christ dans ma vie, dans mon âme, dans mon corps et dans mon esprit. Je crois et je confesse que maintenant je suis une nouvelle créature, pardonnée, purifiée, et que je fais partie de la bergerie de Christ. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Si vous avez fait cette prière, croyez que par la foi, vous êtes devenu une nouvelle créature et que Jésus-Christ vous a entendu. Pour toute question spirituelle, vous pouvez joindre notre ministère, le ministère Jésus pour tous, au plus 243 819 910 910. Je répète, au plus 243 819 910 910. Ou vous pouvez visiter notre site internet www.jésuspourtous.org. Je suis Raphaël Mambou. Le nom de cette émission est Venez à Jésus. Nous retrouvons la fois prochaine, toujours sur le même thème, le bon berger. Que Jésus continue de vous bénir, que Jésus continue de vous garder. À la fois prochaine. Amen.